Pourquoi t'aimer ? Cela pourrait résonner comme une mauvaise chanson d'amour qui nous trotte dans la tête et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Mais à l'heure où s'éteignent les derniers feux de la Saint-Valentin, une question persiste. Pourquoi t'aimer ? Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? On connaît la réponse de Montaigne et la Boétie. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais cette sentence définitive nous laisse un peu sur notre faim. De même que les images du coup de foudre, de Cupidon et ses flèches, du philtre d'amour de Tristan et Iseut ne satisfont pas la soif de comprendre, la passion rationnelle du philosophe qui sommeille en nous. Certes, le désir amoureux ne vaut que par sa fulgurance et l'intensité dramatique des histoires qui le portent. On imagine mal Juliette, 20 ans après, essorant sa salade en robe de chambre et bigoudi, la clope au bec, vociférant contre son Roméo toujours au bistrot, à payer sa tournée pour narrer ses exploits de jeunesse. Non, décidément, on a besoin d'émotion et de tragique. Et comme dit la chanson, il faut que les histoires d'amour finissent mal, en général. Mais justement, si la passion amoureuse est un torrent tumultueux sur lequel nous sommes embarqués, ne vaut-il pas mieux en maîtriser le flux afin de bien mener notre barque et ainsi éviter de se fracasser sur le premier obstacle venu, ou encore s'échouer lamentablement sur un banc de sable comme on s'affaisse dans la routine? Essayons d'y voir plus clair. Pour Jean-Paul Sartre, le désir amoureux ne peut se déployer qu'entre deux êtres radicalement libres. Pour lui, il est hors de question de s'abandonner totalement à l'autre. Écoutons ce qu'il en dit dans « L'être et le néant ». Celui qui veut être aimé ne désire pas l'asservissement de l'être aimé. Il ne tient pas à devenir l'objet d'une passion débordante et mécanique. Il ne veut pas posséder un automatisme. Et si on veut l'humilier, il suffit de lui représenter la passion de l'aimer comme le résultat d'un déterminisme psychologique. L'amant se sentira dévalorisé dans son amour et dans son être. Alors, si l'on suit Sartre, surtout, évitez de dire à votre amoureux ou votre amoureuse que vous rêvez d'être l'ombre de son chien. Cela tuerait à coup sûr toute forme de désir. Au contraire, le principe même du désir repose sur l'insatisfaction permanente. Le désir est insatiable et infini. Et dès qu'il obtient satisfaction, il disparaît. Mais alors, succomber au désir de l'autre et y souscrire reviendrait à signer l'arrêt de mort d'une belle histoire au moment même où elle commence. C'est plus subtil. Car ce qui se joue dans la relation amoureuse, c'est typiquement la réalisation sans cesse réitérée d'un désir impossible. En effet, si le désir se nourrit d'une incapacité à se satisfaire, l'amour est fatalement la quête infinie de cette impossibilité. Sartre nous éclaire une nouvelle fois sur ce point délicat. Ainsi l'amant ne désire-t-il pas posséder l'aimé comme on possède une chose? Il réclame un type spécial d'appropriation. Il veut posséder une liberté comme liberté. Ainsi l'amant demande le serment et s'irrite du serment. Il veut être aimé par une liberté et réclame que cette liberté comme liberté ne soit plus libre. Il veut à la fois que la liberté de l'autre se détermine elle-même à devenir amour. Et cela non point seulement au commencement de l'aventure, mais à chaque instant. Et à la fois que cette liberté soit captivée par elle-même, qu'elle se retourne sur elle-même, comme dans la folie. On voit par là, avec Sartre, que l'amour est une demande impossible. J'attends de l'autre deux choses absolument contradictoires, qu'il ne peut me donner, la liberté et la possession, et lui fait de même en retour. Ce qui nous laisse constamment en prise et toujours insatisfait. Mais comme on sait que le désir se nourrit du manque, alors c'est à ce moment-là que tout devient possible. Et l'histoire d'amour se vit comme un risque, celui de se perdre dans le vertige d'un paradoxe. S'aimer, ce n'est donc pas regarder dans la même direction, comme on peut le lire sur les cahiers des jeunes filles en fleurs. C'est plus sûrement s'affronter, dans une relation qui confine, il faut bien le dire, au sadomasochisme. Mais ce qui importe, c'est que chacun puisse jouer sa partition, à condition bien sûr d'y consentir librement. Nous comprenons qu'il y a une rationalité de l'amour et du désir, mais que cette rationalité consiste précisément en la compréhension de l'irrationalité de nos élans amoureux. Si la philosophie est l'amour de la sagesse, l'amour est loin d'être sage. Et l'on sait que la philosophie, c'est parfois sec et ardu, comme un jour sans amour. Aussi nous cherchons toujours le chemin le plus court pour embrasser, pour étreindre. La froideur du concept n'égalera jamais la chaleur d'un corps qui s'éveille. C'est pourquoi les chansons d'amour, même les plus mauvaises, auront toujours un coup d'avance sur les pages arides et serrées de la phénoménologie de l'esprit ou de l'être et le néant. Alors, chers amis de la sagesse, eh bien, dansez maintenant. Soyons modestes et restons philosophes.